Bonjour, c'est Jean-Philippe Imparato, je suis un passionné d'engins à 2 et 4 roues et j'ai la chance d'être à la tête de la marque Peugeot depuis maintenant 2016. Aujourd'hui, je prends le volant et je vous emmène. On va parler voiture, mais pas seulement. Allez, montez avec moi.
Bonjour Eric.
Bonjour Jean-Philippe Imparato.
Bienvenue dans cette i208. Allez, qui est juste génial.
Oui, ben, on croirait pas là, mais en fait, on roule déjà. Il y a pas trop de bruit. Hein, elle est extrêmement silencieuse.
Ben voilà, la i208, c'est la 208, le silence en plus.
Jean-Philippe, on s'est vu la dernière fois à Schiphol pour ce grand congrès, ce grand séminaire mondial du réseau Peugeot, où la vedette absolue, c'était précisément cette E208. Alors, il y a eu d'autres modèles de présenter, mais je me souviens de cette voiture et notamment de son silence. On va parler de Peugeot, évidemment, même si vous avez coutume de dire que la marque est au-dessus de tout. Mais au travers de Peugeot, j'aimerais parler de votre parcours parce qu'il est, singulier. Vous avez commencé à Dijon, dans le réseau, donc vous connaissez bien la vente de voitures, vous êtes un enfant de la balle, passez-moi l'expression. Quel est votre premier souvenir au volant d'une Peugeot? On dit que la 205 GTI vous a marqué.
Alors exactement, c'est la 205 GTI, c'est la voiture qui a fait que j'ai envoyé mon CV à la marque Peugeot. Moi, provincial, c'est toi, passionné de voitures depuis tout petit. Pas forcément de Peugeot à l'époque, d'ailleurs, au passage. Mon père était un elfiste renommé, je dirais, et en l'occurrence passionné de trial 4x4. Donc, c'était un fendu de Jeep qu'il avait modifié pour faire son trial 4x4 là. Et moi, je suis tombé amoureux des produits de la marque Peugeot quand j'ai vu une 205 GTI 1 litre 9, 130 chevaux, en 1989, je me rappelle encore, dans ma petite ville là de Sète, dans le sud. Et là, je me suis dit, j'adore l'auto, j'ai envie de bosser dans ce métier, et j'ai là un constructeur et une marque qui fait des autos qui me plaisent. Et ça, c'est le point de départ.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans la 205 GTI? C'était que ça allait vite, que c'était
le style first. Je place le style à peu près au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai à faire des arbitrages de dépenses, qui est un peu notre lot à tous, hein, pour faire court, il y a un truc que je touche jamais, au minimum possible, c'est le design. Parce que je considère que, en particulier quand on est en train de se parler d'un véhicule urbain comme 208, 40-50% des critères d'achat tournent autour du style d'abord, évidemment. Donc moi, c'est le style avant tout. Et puis après, évidemment, on a la techno qui rentre dedans, on a le moteur, on a tout ce qu'on veut. Mais ce qui a fait la première réaction, c'est le style. C'est d'ailleurs la même chose que j'ai ressenti quand on a lancé 206 en 1999, hein, une dizaine d'années plus tard. L'auto avait un design super épuré, c'était ce qu'il fallait. Et je vis la même chose avec la nouvelle 208 aujourd'hui.
Alors, on va reparler de la 208, et notamment du modèle dans lequel on est électrique, mais je reviens un instant sur votre parcours. Je disais qu'il était singulier. D'ailleurs, je vous ai vu un peu opiner du chef. C'est vrai que vous avez un CV qui est pas commun du tout dans ce milieu un peu compassé d'ingénieurs, etc. Vous êtes un enfant du réseau Peugeot.
Absolument.
Et aujourd'hui, vous considérez que c'est une force. Quels sont les atouts de ce parcours par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu cette démarche de commencer par le réseau?
J'ai du mal à parler de ça. Mais je suis... D'ailleurs, si vous commencez un peu avant, j'ai un passé littéraire. Je suis de formation littéraire, latin, grec. Ce qui prédispose pas franchement
non,
à l'automobile quand
non.
On est petit.
Non.
Et je pense que ça m'a apporté beaucoup dans la compréhension des phénomènes, en particulier clients, que de m'intéresser à autre chose que mathématiques. Un, deux, j'imaginais même pas avoir la crédibilité managériale nécessaire pour entrer dans ce métier sans connaître l'unité élémentaire qu'est le garage. Mmh. Bien. Comment pouvez-vous parler de commerce automobile sans connaître ceux qui le font?
Mais attendez, sur le parcours littéraire, ça veut dire que ce parcours littéraire développé chez vous, et vous l'utilisez sans doute chez Peugeot, une fibre humaine que peut-être un ingénieur un peu froid, un peu mathématique ou mathématicien n'aurait pas eu?
En tout cas, une proximité aux gens et l'envie d'apprendre qui est, je pense, reconnue. En tout cas, j'aime les gens. On ne peut pas faire ce métier, je pense, si on n'aime pas les gens. Et je pense que cette formation initiale m'a aidé à les comprendre, en tout cas à tenter de le faire. Mmh. C'est ce que je m'attache à faire aujourd'hui.
Quand on vous voit à Schiphol, je me souviens parler au réseau mondial de Peugeot, on est très conscient de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous avez ce contact ce charisme, cette façon de mettre en scène les produits Peugeot. Alors moi, j'ai écouté, hein, j'ai vu beaucoup de patrons dans le secteur automobile ou ailleurs, mais j'ai trouvé que vous aviez un contact tout à fait particulier et exceptionnel, et ça attire l'attention. Vous savez, au bon moment, parler du bon concessionnaire, et ça, c'est quelque chose que vous avez développé ou que vous pensiez être un peu, j'allais dire, inné chez vous.
Alors d'abord, c'est sympa. Merci, non, merci du truc.
J'ai assisté, donc je peux vous dire ce que j'en ai pensé.
Parce que comme j'aime les gens, j'ai besoin de cette proximité avec eux, et je suis absolument convaincu que il y a deux catégories de personnes à motiver pour un acte d'achat d'un véhicule aussi d'un produit aussi important qu'un véhicule automobile. Premièrement, les clients, bien sûr, et deuxièmement les vendeurs et les réseaux. Si le vendeur qui se lève tous les matins en remettant son compteur à zéro de vente tous les jours n'est pas absolument motivé par le produit qu'il vend et n'est pas amoureux du produit qu'il vend, comment voulez-vous qu'il fasse un boulot quand même?
Vous avez raison.
C'est juste pas possible.
Si je filais un peu la métaphore sportive qui vous est pas du tout étrangère et je parlais un peu de rugby, on sent bien que vous n'êtes pas au-dessus de la mêlée, vous êtes dans la mêlée.
J'imagine même pas être au-dessus. Le côté la France d'en haut là qui regarde les mecs bosser, c'est pas mon truc. Je considère que on bâtit une tribu autour de soi. Et la moindre des choses, c'est d'être au milieu du pack, hein, pour continuer à filer cette métaphore. Et être au milieu du pack, ça veut dire être capable de venir sur le terrain, de comprendre ce que les gens sont en train de vivre, de réagir à leurs demandes. Hein, et Dieu sait que ce sont des gens, je veux parler du réseau des vendeurs et de ceux que je vois à l'après-vente aussi, qui sont extrêmement détectants des choses qu'il faut qu'on bouge. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être au milieu d'eux pour aborder ce genre de sujet.
On est dans la 208 électrique. Hein. Le cockpit est tout à fait particulier. Ça, c'est aussi une grande nouveauté pour revenir au produit Peugeot.
Alors, c'est une signature de la marque depuis maintenant 2012. On a créé le iCockpit qui vous met dans un écran.
On est en 3D, quoi.
Alors, vous êtes dans un écran qui entoure le conducteur. Et là, sur la nouvelle 208, on a ce iCockpit 3D qui permet de hiérarchiser les informations que vous voyez d'abord, votre vitesse, par exemple, ou votre charge pour la partie électrique de la voiture, ou l'autonomie, par exemple, du véhicule. Et c'est extrêmement agréable. Et puis, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'on a sur un segment de ce style, petite voiture urbaine, un contenu technologique de ce style-là. Je pense que j'ai pas d'équivalent dans le monde aujourd'hui. C'est super sexy, en dehors d'être super pratique. Et c'est très agréable à vivre, je dirais, au quotidien. Donc, ça fait partie des innovations qu'on a sur 208 pour la partie générique, je dirais, le iCockpit 3D. Et puis ensuite, on descend sur la partie électrique et sur la partie thermique de la voiture.
Alors justement, quelle est votre vision sur l'évolution de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Quand on voit ce nouveau cockpit, est-ce que à terme, on sera encore dans une voiture ou bien on sera dans un ordinateur?
Je pense que vous allez conduire une voiture pendant encore très longtemps, et c'est une bonne nouvelle, hein, pour la marque qui, entre autres, déploie une valeur qui s'appelle le plaisir de conduire. Donc, pour moi, je pense qu'on n'est pas encore en train de s'expliquer qu'une voiture, c'est un iPad autour duquel on met quatre roues. En revanche, il faut être bien conscient que l'évolution du contenu technologique qu'on va retrouver sur nos voitures est telle que l'on va avoir de plus en plus de contenu technologique qui va accompagner le véhicule physique. La connectivité en est un. Les différents niveaux d'autonomie qui vont nous guider vers un jour la voiture autonome en est un autre. Et donc, on est en train de se diriger vers des objets qui sont extrêmement complexes. Je vais vous donner une petite info. On lance en ce moment l'ensemble des électriques dans la marque Peugeot, mais également les plug-in hybrides que l'on va lancer sur 508, que l'on va lancer sur 3008. Le nombre de lignes de code pour faire un PHEV, plug-in hybrid, 77 millions. En ordre de grandeur, vous avez 3 ou 4 Airbus A350. En termes de.
Mais on n'imagine pas du tout. Hein.
Donc le métier dont on est en train de parler est en train de changer complètement. PSA devient une soft company, la marque Peugeot aussi. Mais imaginez la complexité de ce genre de produit aujourd'hui, ça vous donne une petite idée des changements et des bouleversements majeurs qu'on a en face de nous. Mm-hmm. Pas simplement de la partie moteur, mais également de tout l'environnement, tout l'écosystème automobile qui est en train de bouger. Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que vous êtes certain que l'électrique va triompher? D'autres constructeurs, d'autres analyses pensent que l'hydrogène peut avoir aussi son mot à dire. Là, vous avez fait le pari chez Peugeot l'électrique.
Le décarboner, à de toute façon, la voie royale devant lui, je veux dire, en 2030, vous n'avez plus de moteurs thermiques, à proprement parler, sur le marché. Ou en tout cas, que ces moteurs thermiques, s'il en existe encore, seront électrifiés, au sens, avec un apport électrique qui viendra diminuer leur rejet de CO2. C'est très clair. On verra ensuite comment l'histoire s'écrira. Mmh. Le fuel cell, pour parler d'hydrogène, est évidemment à l'étude. Il présente deux caractéristiques qu'il faut régler. Premièrement, les stations de recharge sont hyper chères.
1 million d'euros.
Deux.
Oui, c'est bon. Donc, c'est beaucoup d'argent.
Donc, c'est quand même
par rapport à la prise qu'on peut brancher chez soi.
Et puis, deuxièmement, il y a quelques sujets de sécurité à traiter autour de ce genre de technologie qu'il faut pouvoir être capable, d'une part, de traiter et d'autre part, d'industrialiser. Parce qu'on est en train de se parler de volumes qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont aujourd'hui manipulés par ceux qui vendent des voitures à 100 000 euros. Mmh. On est en train de se parler de 7, 10, 15, 20%, 30% des volumes globaux d'une marque comme Peugeot qui vend en ordre de grandeur 1,8 million à 2 millions de voitures. Mmh. Et donc, si vous voulez être capable de vendre ce volume-là, ce mix-là énergétique, il faut d'une part que vous fassiez des véhicules qui soient abordables, au sens accessibles, en termes économiques. Et puis, deuxièmement, que vous ayez derrière toute la phase industrialisation et reconditionnement batterie qui vous permettent d'assumer ces volumes. C'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment chez Peugeot et c'est pour ça qu'on se présente dans le marché en 2020 avec, je pense, i208 et i2008, plus toute la gamme électrifiée dans de bonnes conditions.
Mmh. Alors, sur votre parcours, j'aimerais revenir un instant. Vous le disiez tout à l'heure quand on commençait cette conversation. Vous avez été nommé en 2016 par Carlos Tavares.
Ouais.
J'ai trouvé un point commun. Alors, je ne sais pas si vous allez le partager avec moi entre vous et lui. Quand je regarde les gens qui sont succédés à la tête de PSA, je pense à M. Calvet, M. Fols, à M. Varin, M. Streff, c'était des patrons professionnels, mais qui ne venaient pas du milieu de l'automobile. C'est exactement le contraire pour Carlos Tavares et pour vous. Comment est-ce que vous analysez votre nomination? C'est un homme de l'automobile qui reconnaît, qui nomme un autre homme de l'automobile?
Alors moi, sans Carlos, je ne suis pas patron de la marque Peugeot. Il faut quand même être clair. Carlos, c'est alors là, pour le coup, un enfant de la balle, et pas que, il est né dedans quand il était petit, hein, et c'est un passionné. Alors, il est passionné de la technique, il est passionné du commerce, il est passionné de la course. D'ailleurs, on roule ensemble sur un certain nombre de sorties par an, là.
C'est-à-dire, vous faites des rallyes avec lui?
Ouais.
Pas du
rallye, mais du circuit avec lui. Sauf que.
À notre vitesse.
On fait du Manicourt, on fait du Nürburgring, on fait avec la 208.
Dans la même voiture?
Avec la 208 Racing Cup. Oui, avec la même voiture et le même baquet. Sauf que c'est moi qui choisis le baquet parce qu'on n'a pas tout à fait la même corpulence. Et lui, rajoute des coussins.
Mais pour parce être, qu'il est plus petit.
Pour venir sérieux, ou alors parce que je suis un
trop
peu plus
gros.
Mais pour devenir sérieux, oui, c'est quelqu'un qui adore le métier qu'il fait parce qu'il le connaît. Et moi, c'est la divine
surprise.
La divine surprise, c'est qu'on a eu la possibilité de se parler avec des mots que l'on comprenait tous les deux parce que on a partagé à la fois les mêmes passions et les mêmes et probablement une partie des mêmes origines. Moi, elles sont commerciales, lui, elles sont techniques, mais de toute façon, ça part du terrain. Et la passion pour le contact avec le terrain, ça, c'est quelque chose qui caractérise Carlos. Je pense qu'on peut lui reconnaître ça, quels que soient les métiers abordés. Et donc, bon, voilà, après, je ne sais pas comment et pourquoi il m'a identifié. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu sans avoir été, à un moment donné, en contact avec lui. Mais je pense que ce qui a fait sa décision, c'est que préalablement à la marque Peugeot, je m'occupais du retail et donc des garages du groupe, qui était à l'époque dans une situation financière, on va dire, délicate, et que nous avons remis d'aplomb en 3 ans. On appelle ça communément le réseau propre du groupe, c'est-à-dire l'ensemble des garages qui sont propriétés du groupe. On a remis ça d'aplomb en 3 ans et en partant d'une situation extrêmement dégradée. Je pense que par la suite, il a voulu donner un signal de promotion de gars qui avaient résolu des problèmes financiers clés dans l'entreprise que l'on remettait d'aplomb à l'époque. Et voilà, donc ça s'est fait de cette manière, je dirais assez simplement. Écoutez tout de suite l'épisode 2 pour continuer la route ensemble.